Aujourd'hui, nous recevons donc Monsieur Yvan Vérot, ingénieur civil, qui est directeur sécurité environnement industrie chez Atofina, chargé de cours à l'École centrale des arts et manufactures de Paris. Il est spécialisé dans le génie chimique, la sécurité des procédés, la sécurité industrielle et la protection de l'environnement. Et à ce titre, il est membre de plusieurs associations. Il est président de la commission sécurité industrielle de l'Union des industries chimiques et membre de la commission risque accidentel de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Je vous remercie et je lui laisse la parole.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Mon exposé porte sur le risque industriel et c'est un thème qui pourrait donner lieu à de multiples développements et j'ai choisi de prendre un axe d'exposé qui sorte des habitudes. Lorsqu'on traite du risque industriel, en général, on se réfère au risque juridique, à l'aspect assurantiel ou des éléments de ce type-là. Et j'ai choisi ce soir de vous apporter des informations sur la logique, la méthodologie suivie par l'industriel, soit pour assurer une vision interne, et j'essaierai également de vous indiquer comment nous souhaitons être attentifs et apporter des réponses également à l'externe, aux interrogations ou aux attentes qui pourraient s'exprimer. Donc, mon exposé sera celui d'un technicien, d'un acteur de l'entreprise, et je vous propose de suivre le plan suivant pour cet exposé. Dans un premier temps, nous nous interrogerons sur le contexte dans lequel se situe la problématique du risque industriel, ça me paraît nécessaire, pour qu'ensuite nous soyons d'accord au moins sur les termes et les concepts, j'essaierai de préciser la notion de risque. Alors je ne m'étendrai pas trop sur ce thème-là parce que ça a donné lieu à de multiples colloques, à de multiples séminaires, de nombreux ouvrages, de nombreux exposés, et il est véritablement difficile d'être original, impossible d'être novateur en ce domaine. On examinera ensuite, si vous le voulez bien, les éléments alors qui caractérisent plus précisément le risque industriel. Et le moment sera venu d'expliquer la démarche interne, c'est-à-dire celle qui est suivie par l'industriel pour gérer ce risque. Et vous voudrez bien m'excuser un anglicisme, j'utiliserai le mot de management du risque, puisqu'il n'y a pas de bonne traduction en français de ce terme de management et qu'il est hélas fort utile. Ensuite, d'examiner les réponses susceptibles d'être apportées aux interrogations externes, c'est-à-dire celles qui viennent de l'extérieur de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle de façon courante le risque perçu. Et puis, je voudrais enfin aborder le problème de la complexité des problèmes modernes pour mettre en exergue l'élément dit de facteur humain, c'est-à-dire vous apporter quelques informations sur combien l'acteur dans les systèmes complexes et porteurs de risques est important pour la gestion de la sécurité. Abordons le contexte, si vous le voulez bien. Alors, je commencerai par un point de vue qui relève à certains égards de la banalité, c'est qu'au fil du temps, les évolutions des techniques et des connaissances ont apporté ce que l'on appelle le progrès. Il aurait mieux valu, puisque c'est un thème de débat d'ailleurs, que je mette « progrès » entre guillemets. Nous vivons malgré tout une époque où le niveau de vie est extrêmement élevé, au moins dans les pays développés, et là ce n'est pas partagé sur la totalité de la planète. Nous bénéficions d'un état de santé remarquable, d'une longévité qui a doublé en 2 siècles. Nous avons augmenté notre longévité de 25%. En 1 siècle, nous gagnons actuellement dans un pays comme la France 3 mois par an. En regard de ces éléments qui pourraient paraître positifs, force est de constater néanmoins que toute activité humaine, et bien sûr l'activité industrielle, est porteuse de risques et est susceptible d'affecter l'environnement. En restant sur le contexte, ces différentes étapes dans l'évolution, qui sont soutenues donc par le développement des connaissances, le développement des techniques, le développement du progrès, l'amélioration du niveau de vie, eh bien, en parallèle à toutes ces évolutions, il y a également une évolution marquée dans les aspirations et les exigences de la société. Et comme la loi précède rarement justement l'évolution des opinions, enfin ça peut se faire, mais en général ça correspond à des périodes révolutionnaires, on constate également une évolution parallèle de la législation et de la réglementation. Et donc le premier élément sur lequel je souhaitais insister, sur le contexte dans lequel se place la problématique du risque, c'est les caractéristiques de chaque époque, les éléments socioculturels qui amèneront à porter un regard particulier sur le risque, et notamment le risque industriel. Alors, pour venir m'aider dans cet exposé, j'ai choisi quelques citations sur cette notion de risque. La première, sous la signature prestigieuse de Jean-Marie Lène, qui a été prix Nobel de chimie en 1987, si j'ai bonne mémoire, qui constatait dans un écrit dans Le Monde que le risque naît avec la vie, le risque zéro n'existe pas sinon dans un monde de mort. Et une deuxième citation du professeur François Ewald, qui est professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, qui dit que c'est à travers le risque de sa vie que l'homme prend conscience de lui-même comme d'un homme. C'est-à-dire que le risque est l'exacte mesure du regard que nous portons sur nous-mêmes, individuellement ou collectivement. Et le risque est donc consubstantiel à l'existence. Du seul fait d'exister, nous nous mettons au risque. Et nos parents, à cet égard, bien entendu, ont pris une grande responsabilité. Peut-être que certains d'entre vous ont lu un ouvrage d'un philosophe actuel, Alain Etchegoyen, qui a écrit un livre remarquable sur ce sujet et qui commence justement sur la responsabilité par faire part de son expérience de père et qu'il a pris conscience de la responsabilité qui était la sienne lorsqu'il a pris son bébé pour la première fois dans ses bras. Approfondissant cette notion de risque, un autre élément, professeur Tubiana, qui dans un ouvrage récent qui s'appelle « L'éducation et la vie » constatait le contraste qu'il y a entre la perception pessimiste que nos contemporains ont du monde et de la réalité, jugée sur des critères objectifs. Et puis une autre citation d'une ethnologue américaine qui, il y a 20 ans à peu près, écrivait « Nous ne voyons le risque qu'à travers les lunettes roses ou noires de nos déterminations culturelles. » Ceci nous amène à constater que le risque n'est pas qu'un élément technique. Je vous parlerai des éléments techniques, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Le risque est aussi une construction sociale et il répond fondamentalement à un choix de société. Alors, notre époque, en tout cas, c'est le regard que je porte sur le monde actuel, est marquée par un doute indéniable sur le progrès, que j'ai mis entre guillemets. Alors, ceci, peut-être que ça reviendra dans vos questions, marque indéniablement une prise de distance par rapport aux sciences et à la technique. Nous vivons une époque où ces deux éléments posent d'évidence un certain nombre d'interrogations. Et puis, notre époque est également marquée par une hypertrophie de la sensibilité au risque, une aversion au risque, avec, même si on affirme tous les jours, parce que l'expression est passée dans le langage courant, que le risque zéro n'existe pas, il y a malgré tout, implicitement ou explicitement, une recherche du risque zéro, une crainte indéniable de la nouveauté. Alors cette crainte indéniable de la nouveauté, elle est certainement alimentée d'abord par nos progrès considérables dans les mesures et les analyses. Nous savons détecter à des doses infimes différentes choses, repris par une médiatisation souvent trop rapide, c'est-à-dire que l'information est largement divulguée avant que la moindre explication ait pu être donnée. Tout ceci engendre cette crainte de la nouveauté. Et puis ça amène à un effet très moderne qui est l'invocation quasi journalière dans tous les journaux et souvent d'ailleurs dans l'ignorance ou l'oubli des éléments qui le fondent, l'invocation du principe de précaution. Alors pour approfondir cette notion de risque, voudrais vous en présenter les éléments vus par le technicien. Il y a d'autres définitions du risque. Celle-ci, c'est celle du technicien. Et l'une des premières confusions, c'est souvent d'assimiler le danger au risque. Alors, je vais essayer rapidement d'indiquer en quoi ces deux éléments sont différents. Le danger, c'est une propriété intrinsèque, soit une substance, soit un système. Ça caractérise une potentialité de dommage. On parle d'une substance toxique, d'une substance inflammable. Pour faire plus simple, en parlant de système, la foudre, dans le cas d'un orage, présente un potentiel de dommage. C'est un élément de danger. Pour que le danger fasse son effet, eh bien, il faut que l'on se trouve dans ce qu'on appelle, pour le technicien, une situation de danger, c'est-à-dire qu'il y ait coexistence, parfois temporaire, très courte, mais suffisante pour que l'élément porteur de danger porte atteinte à un élément qu'on va appeler un élément vulnérable. Et le risque, eh bien, est caractérisé par la survenue de l'expression du danger, c'est-à-dire la réalisation de cette potentialité de dommage. La foudre a frappé un individu ou a frappé un édifice. Et le risque est caractérisé, pour le technicien, par deux éléments, la probabilité de survenue et la gravité des conséquences associées à l'expression du danger. Cette définition est foncièrement technique. On essaiera, dans une autre partie de l'exposé, d'aborder une perception plus externe, plus émotionnelle, sur le risque. Alors, cette définition va nous permettre d'expliquer comment l'industriel aborde le risque. J'ai représenté sur cette vue assez naïve, mais j'espère suffisamment synthétique et explicite, un établissement, quelle que soit l'industrie, mais une industrie porteuse de risque, et puis une installation dans cet établissement. Eh bien, une telle installation est susceptible de porter atteinte à différents intérêts. Le premier, le plus classique, le plus vieux dans la démarche de maîtrise du risque, c'est ce qu'on appelle la sécurité au poste de travail. C'était celui qui protégeait l'opérateur, l'acteur, directement en liaison avec l'outil ou l'équipement. C'est l'image du mineur, si vous voulez, pour protéger sa sécurité. Une autre préoccupation, c'est celle de la santé au poste de travail, c'est-à-dire toutes les possibilités, non plus à l'atteinte de l'intégrité physique, comme la sécurité au poste de travail, mais fondamentalement aux éléments de la santé de l'individu. Et puis, en certaines circonstances, eh bien, l'événement accidentel est d'une telle ampleur que les effets, les dommages, peuvent déborder des frontières de l'entreprise ou de l'usine et affecter soit l'environnement, soit, parce que les effets sont considérables, c'est ce qui s'est produit par exemple récemment en Hollande, vous avez vu à la télévision, un stockage de produits pyrotechniques, eh bien ça peut affecter des bâtiments, des personnes à l'extérieur de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon moderne, la prévention des risques majeurs. Donc, quatre composantes pour le risque industriel, sécurité et santé au poste de travail, protection de l'environnement et prévention des risques majeurs. Comment ce problème se pose à l'industriel ? On a souvent l'impression que le risque n'est géré que pendant l'exploitation, c'est-à-dire fondamentalement sur l'usine, au moment où se réalisent les opérations qui sont porteuses de risque. L'accident n'arrive que pendant les opérations des unités, ou parce qu'un avion est en vol, ou parce qu'un train est en train de rouler sur la voie, ou parce qu'une voiture se trouve sur la route. Eh bien, l'industriel, pour répondre aux préoccupations de prise en charge convenable des préoccupations d'hygiène, de sécurité et d'environnement, ne se préoccupe pas de la sécurité qu'au stade du fonctionnement des installations, mais bien en amont. C'est-à-dire que dans les méthodologies modernes des industries actuelles, eh bien, c'est dès le stade de la recherche, de la conception des procédés, que se pose le problème. C'est à ce stade que vont se faire des études souvent très approfondies, basées sur des essais également très détaillés, que vont se porter les choix sur ce que sera la future unité, mais des choix qui contiennent pas uniquement la préoccupation technique, c'est-à-dire réaliser un outil qui produira tel ou tel produit qui serait vendable, pas uniquement la préoccupation économique, mais également une préoccupation d'hygiène, de sécurité et d'environnement. C'est fondamentalement d'ailleurs ma fonction. Ensuite, bien entendu, une fois que, à ce stade-ci, les choix qu'on espère bons ont été faits, eh bien, il faut que ces choix s'expriment dans une réalité, et c'est ce que feront les ingénieurs qui construiront les installations en respectant les principes qui ont été définis au stade antérieur, c'est-à-dire au stade de la conception. Et puis, bien entendu, la sécurité prend toute son ampleur au moment du fonctionnement des installations et puis de l'entretien. Ça ne s'arrête pas là. Pour certaines industries, compte tenu des produits fabriqués, eh bien, la préoccupation se prolonge lors de l'expédition et du transport des produits. Et depuis quelques années également, eh bien, pour un certain nombre d'industries, la préoccupation va jusqu'à ce qu'on appelle l'usage des produits, c'est-à-dire faire en sorte que le produit qui sera fabriqué, mis sur le marché, soit accompagné de conseils, de rapprochement avec l'utilisateur, de telle façon que le produit soit utilisé de façon à assurer la sécurité de l'utilisateur et la protection de l'environnement au moment où on va l'utiliser. Et puis se pose enfin, et ceci est une problématique très moderne, le problème de ce qu'on appelle la fin de vie d'un produit. C'est-à-dire qu'il est arrivé au bout de la chaîne d'utilisation, et qu'en fait-on ? Et donc se pose le problème soit du recyclage, soit de la valorisation, soit du traitement, soit enfin de l'élimination sous forme de déchets du produit en question. C'est une problématique très moderne dont vous entendez parler, notamment sur la récupération des éléments constitutifs des voitures, où une législation européenne est en train de se mettre en place pour que l'ensemble des composants d'une voiture soit récupéré et, si possible, et au maximum, recyclé. On vient de voir les composantes. On vient de voir l'ensemble des étapes dans le processus de fabrication d'un produit tel que l'industriel l'aborde. Je voudrais insister sur un point sur lequel je reviendrai tout à fait à la fin de l'exposé. C'est une autre difficulté à laquelle nous avons à nous affronter, c'est celui de la complexité. Les systèmes modernes sont extrêmement complexes. Et pas uniquement que le système industriel. Regardez le fonctionnement d'une entreprise comme la SNCF, regardez ce que c'est que de faire voler un avion. Ce n'est pas uniquement le mettre en l'air, c'est aussi le faire rouler au sol. Et vous avez vu qu'un incident s'est produit sur Roissy récemment. Donc tous ces éléments-là sont d'une extrême complexité. Quels sont les éléments de cette complexité ? En premier lieu, bien sûr, il y a tous les éléments techniques qui sont dus au nombre élevé de composants, de paramètres qui font que l'ensemble peut fonctionner. Il y a beaucoup d'éléments constitutifs, des pièces, des équipements qui sont en interaction, en interdépendance. Et bien entendu, les installations fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique. C'est comme votre voiture, elle est animée d'une certaine vitesse, et si vous voulez corriger une trajectoire ou corriger la vitesse, eh bien vous avez à lutter contre cette dynamique et la maîtriser. Un élément aussi de nos installations et nos organisations modernes, c'est l'organisation, c'est-à-dire le fait que, compte tenu de la diversité des éléments qui composent nos installations industrielles, plusieurs intervenants de différents métiers, de différentes logiques, de différentes formations interviennent simultanément, de façon concomitante, au succès de l'objectif. Et l'un des problèmes, c'est de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble dans une logique commune, alors qu'ils ont des formations et des logiques différentes. À la chimie, on évoquait tout à l'heure l'Union des industries chimiques et la Commission de sécurité industrielle. Eh bien, nous avons rédigé au fil des ans une vingtaine de cahiers dits de sécurité qui prodiguent des bons conseils pour aborder différents sujets. Pour les problèmes de protection de l'environnement ou de sécurité de nos installations. Vient ensuite, bien entendu, le site d'exploitation, c'est-à-dire l'usine, pour parler plus simplement, où là, eh bien, des hommes sont au travail avec un certain nombre de règles, une organisation qui est propre à chaque établissement, des consignes pour faire fonctionner l'ensemble des installations et un certain nombre de procédures associées à l'exploitation pour la maintenance, pour l'inspection technique, et ainsi de suite. Et puis vient un quatrième élément, qui est celui des acteurs. Et un certain nombre d'éléments, là aussi, participent de cette recherche de sécurité ou de protection de l'environnement. C'est d'abord le recrutement, pour s'assurer qu'il n'est pas basé uniquement sur des connaissances, mais aussi sur un certain nombre d'aptitudes psychologiques pour certaines industries. La formation donnée par l'industriel en fonction justement de son activité, l'entraînement et des éléments propres au comportement des acteurs, et j'y reviendrai sur ce point-là en fin d'exposé. Et puis en dernier lieu, c'est l'ensemble des dispositifs de sécurité, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments d'alarme, de sécurité, d'automatisme, qui vont, en cas d'incident, agir automatiquement ou prévenir les acteurs qu'on se trouve dans une situation d'anomalie et engager même automatiquement un certain nombre de moyens d'intervention. Je me resservirai de ce transparent tout à l'heure. Donc pour en terminer avec la logique de l'industriel, eh bien, le management du risque, compte tenu des attentes et sollicitations de l'extérieur, des exigences réglementaires, mais aussi, et j'insiste sur ce point, de la démarche interne de l'industriel, eh bien tout ceci a fait que désormais, les préoccupations d'hygiène, de sécurité et d'environnement font partie, sont déclarées comme telles des objectifs majeurs et sont au cœur des décisions stratégiques de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles sont affichées. Et vous avez peut-être vu un certain nombre de documents qu'on appelle des rapports environnement ou des rapports de sécurité d'entreprise qui sont distribués soit au plan national, soit au plan local. Un petit résumé de ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Au service de cette prévention, au service de cette maîtrise, eh bien, il y a d'abord la politique avec ses objectifs, un ensemble de méthodologies et de procédures, et puis une organisation, des structures et des moyens. Tout ceci, c'est la démarche de l'industriel pour s'assurer que dans tout projet, dans toute installation, il a pris convenablement en compte, en plus de ses préoccupations techniques, en plus de ses préoccupations économiques, les préoccupations d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Maintenant se pose le problème de la perception à l'extérieur. Comment répondre aux attentes et aux interrogations des personnes extérieures à l'entreprise, qui ont forcément un autre regard? Alors, il y a traditionnellement deux types de réponses. Une qui est très ancienne, qui est une réponse donnée par la loi et le règlement, c'est-à-dire un encadrement réglementaire, et les installations porteuses de risques en France sont soumises à une législation qui s'appelle la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. La source de cette législation, eh bien, c'est un décret impérial, Napoléon Ier, 1810, suite au terrible accident de la poudrerie de Vincennes en 1794. Eh bien, l'empereur, en 1805, avait demandé à un certain nombre de scientifiques de regarder le sujet, et la première réglementation date de 1810. L'économie de ce texte, comme disent les juristes, a été globalement conservée, c'est-à-dire que nous vivons sous une loi et un règlement dont les éléments fondamentaux sont encore ceux de 1810. Alors, ce règlement a été rénové en 1917, et puis ensuite en 1976, et il était d'une assez grande stabilité. Ceci étant, le prurit réglementaire qui nous anime fait que depuis 1976, les textes ont été largement bouleversés. En quoi consiste cette réglementation? Bien d'abord, toute installation qui relève de cette catégorie d'industrie à risque, eh bien, doit être soumise à une procédure dite d'autorisation, c'est-à-dire que l'industriel doit remettre à l'administration un certain nombre de justifications qui s'appellent des études de danger pour la sécurité, des études d'impact pour les préoccupations d'environnement et de protection de la santé à l'extérieur d'usine, et c'est soumis à une publicité puisqu'il y a ce qu'on appelle une enquête publique avec les dossiers qui sont portés à la connaissance de toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, et ça se traduit sous l'autorité de Monsieur le Préfet par un ensemble de prescriptions qu'on appelle prescriptions particulières et qui sont adaptées à l'installation que l'industriel prétend mettre en service. Pour donner plus, je dirais, de contrôle ou de poids au contrôle, la législation prévoit, et ceci devient une pratique courante, eh bien les dossiers, les éléments de l'industriel sont de plus en plus soumis à une expertise externe, c'est-à-dire une tierce partie qui donne son avis sur le sujet et dépose cet avis auprès de Monsieur le Préfet. Bien entendu, une fois que l'installation est mise en service, il y a un contrôle régulier par l'administration. La loi prévoit également que pour se mettre en situation de répondre à tout événement accidentel, des plans d'urgence sont mis en place par l'industriel, d'abord en interne et ensuite en collaboration avec Monsieur le Préfet. Lorsque l'on est dans ce qu'on appelle vraiment des circonstances de risque majeur a priori, eh bien, il y a aussi prévu par la loi, sous l'autorité à la fois du maire de la ou des communes concernées et du préfet, une information du public avec remise de plaquettes et de conseils sur l'attitude à tenir en cas d'accident. Et puis, pour un certain nombre d'activités, il y a aussi la mise en place de ce qu'on appelle des commissions locales d'information et de surveillance où différentes personnes de l'extérieur, des milieux associatifs ou autres, sont régulièrement convoquées pour suivre l'évolution des performances de l'usine et des différents événements. Une deuxième façon de répondre aux préoccupations de l'extérieur, eh bien, c'est de rechercher des occasions pour favoriser les occasions d'information et d'échange en vue d'un partage de points de vue, puisqu'il y a la rationalité ou la logique de l'industriel, et puis de l'autre côté, il y a la rationalité et la logique des personnes vivant à l'extérieur, parfois au voisinage des installations. Alors, pour ceci, il y a plusieurs éléments. D'abord, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la publication par l'industriel d'un certain nombre de documents dans lesquels il affiche sa politique, ses objectifs. Ensuite, et c'est devenu de pratique courante, de nombreuses visites d'usines ou de sites industriels sont effectuées. Il y a des relations avec des milieux professionnels, les médecins, les magistrats. Bien entendu, des relations avec des milieux scolaires et universitaires qui sont très fréquents. Les relations avec les médias. On s'efforce de ne pas voir les journalistes, presse écrite ou télévisée ou radio, uniquement dans des situations post-accidentelles, mais faire en sorte de leur présenter nos activités et nos démarches en période plus calme, pour qu'ils essaient de mieux nous connaître et surtout connaître notre jargon, puisque comme tout secteur industriel ou toute spécialité, nous avons un jargon associé parfois à nos démarches et à nos activités. Il y a également, c'est surtout au niveau préfectoral que ceci est organisé, des instances d'échange et d'information, où l'administration, le public au sens large, les milieux associatifs et bien sûr les industriels sont représentés et peuvent débattre et essayer de définir en commun des objectifs sur une zone déterminée. Et puis le niveau le plus élaboré, parfois sur des sujets qui le méritent, mais ils sont assez rares, eh bien, vous devez savoir qu'il y a, sur certains sujets, l'organisation de ce qu'on appelle des conférences de citoyens, c'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens choisis au sort sont mis dans des conditions d'avoir à donner leur avis sur une grande évolution technique. Ça peut être sur les problèmes, par exemple, des OGM, où ça avait été organisé. Et donc, ces citoyens reçoivent une formation des personnes qui détiennent le plus de savoir dans le domaine et ensuite débattent entre eux et font part de leurs décisions. Alors, ces deux types d'approches ont fait l'objet d'une étude dans le cadre du quatrième programme de l'Union européenne, du quatrième programme de recherche. Ça s'appelait le séminaire TrustNet. 80 personnes, pendant plus de 2 ans, se sont réunies. 80 personnes qui appartenaient à des milieux différents, c'est-à-dire il y avait des universitaires, il y avait des personnes de milieu associatif, il y avait des personnes d'administration, il y avait des industriels, et ils ont débattu de ces sujets et dégagé deux paradigmes. L'un, le paradigme dit d'autorité, qui est ce que j'appelais tout à l'heure l'encadrement réglementaire, et puis un autre qu'ils ont appelé de confiance mutuelle, qui était la deuxième partie de ce que je vous ai présenté pour rechercher toute occasion pour pouvoir débattre avec des personnes à l'extérieur de l'entreprise de leur perception et favoriser les échanges de points de vue. Ces deux paradigmes, dans toute situation, sont toujours présents. Ils prennent plus ou moins d'ampleur suivant que le problème est simple, parfaitement encadré à la fois par le règlement et par les connaissances, ou qu'au contraire, on se trouve dans un domaine où la science devient incertaine, où il y a des craintes marquées de risques graves et où la réponse n'est pas facile à apporter. On se trouve typiquement dans ce qu'on appelle le principe de précaution, et le deuxième paradigme dans ce cas-là prend toute sa valeur. Donc il y a tout un éventail d'applications de ces deux paradigmes en toute situation, que ce soit pour la création d'une nouvelle installation ou que ce soit bien sûr pour le suivi d'une installation existante. Je vous avais dit en cours d'exposé que j'attachais une grande importance au facteur humain. Je vais le relier à quelque chose que je vous ai déjà exposé, qui est la complexité dans ces trois éléments, technique, organisation et aspect humain. Pour tout projet, l'industriel, dans une première démarche, va s'efforcer, et c'est la vocation même du stade de la conception, de la construction et puis de l'organisation des consignes et des procédures, d'enfermer la réalité dans le prévu, dans l'organisé. C'est foncièrement la logique rationnelle de l'ingénieur qui se met au service d'un objectif et qui essaie de définir a priori comment ça doit marcher. Donc c'est le fonctionnement normal avec les consignes, c'est la gestion des déviations, mais des déviations prévues, étudiées, auxquelles on a apporté un certain nombre de réponses, c'est ce qu'on appelle les consignes de sécurité, et puis un élément dont je vous ai déjà parlé, qui est les plans d'urgence pour la gestion des situations accidentelles. Et dans nos études, nous abordons a priori un certain nombre de scénarios avec leur déroulement potentiel et les moyens pour arrêter leur déroulement au plus tôt et, comme je disais en début d'exposé, limiter les conséquences. Donc cette partie d'anticipation, c'est le projet. Ensuite vient la réalité de fonctionnement. Et là, on fait appel à une autre notion que l'on appelle la résilience, cette aptitude à résister au choc, comme disent les mécaniciens. Donc c'est l'affrontement non plus dans le cadre d'un projet, mais avec la réalité. C'est la fonction même de l'exploitant qui a pour charge de réconcilier le prévu avec le réel, de faire en sorte que ce que l'ingénieur concepteur a prévu, eh bien, se déroule effectivement dans le fonctionnement de l'installation. Et donc là, il y a une aptitude à réagir à toute situation anormale ou dégradée, ou à toute situation accidentelle qui ne rentre pas totalement dans le cadre des plans d'urgence prévus. Si on examine ces deux éléments, eh bien on voit apparaître, je ne sais pas si c'est visible, non, ce n'est pas visible. Eh bien, pour l'anticipation, ce sont des moyens qui sont purement, je dirais, procéduriers et techniques. C'est l'organisation, ce sont les moyens, la méthodologie, les consignes, les procédures dont je vous ai déjà parlé, les contrôles, la formation, l'entraînement, la discipline, tout ceci appartient à ce premier rectangle d'anticipation. Pour ce qui concerne la résilience, l'aptitude à réagir à ce qui n'a pas été prévu, eh bien on tombe dans un élément qui relève plutôt de l'aptitude des acteurs sur le terrain et qui relève des domaines de la compréhension, de l'objectif du fonctionnement du système, de l'adhésion aux règles et consignes en vigueur, de la motivation, de l'implication et des pratiques réelles sur le terrain. Et si je reviens rapidement à ce transparent que je vous avais présenté en cours d'exposé, eh bien, sur ces différentes couches successivement mises en place pour le management du risque, l'anticipation est partout, elle est dans tous les secteurs. La résilience, elle est fondamentalement au niveau technique ici, dans les dispositifs de sécurité, mais fondamentalement au niveau des acteurs. Donc l'un des éléments fondamentaux pour l'industriel du management du risque, c'est le facteur humain. Et j'ai repris ici une présentation de M. Nicolet de Rizis, où vous avez en jaune et en diagonale les éléments, je dirais génériques, de toute politique d'entreprise, ce que j'appelais tout à l'heure les convictions, les valeurs, les principes d'action et les objectifs. Et vous voyez apparaître en blanc les éléments que l'on attend des acteurs de l'entreprise au service de cette politique. C'est d'abord la compréhension du système, et ça relève donc de toute la logique de formation, d'entraînement, toute la pédagogie qui doit être déployée dans l'entreprise pour rendre les acteurs aptes à s'affronter à ce sujet. La connaissance des règles et leur justification. Les règles ne se conçoivent et ne s'admettent que parce qu'elles sont au service d'un objectif. Et puis, bien entendu, le comportement individuel ou du collectif au travail qui se traduit par l'adhésion, l'implication, faire que chacun dans ses décisions et des actions cherche non seulement à répondre et à respecter les règles, mais s'efforce en permanence d'apporter un mieux à ces règles et à ces procédures pour améliorer le management du risque. J'en arrive donc à ma conclusion. Et je me soumettrai ensuite bien volontiers à vos questions. L'exposé m'a permis de replacer la problématique du risque industriel dans le contexte que nous avons vu en début, notamment ce doute sur le progrès, aversion au risque, de fournir les caractéristiques du risque industriel, de montrer ensuite comment l'industriel abordait ce sujet, et quelle réponse il s'est forcé ensuite d'apporter aux interrogations et aux attentes de l'extérieur. L'objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que ces deux logiques d'appréciation puissent se résoudre en une conclusion commune et faire en sorte qu'on évite, ce qui est possible d'ailleurs à l'heure actuelle, à une situation stérilisante. Je considère qu'il n'y a pas d'antagonisme irréductible entre le développement technique et économique et les préoccupations de sécurité et de protection de l'environnement. Et qu'il est indispensable de rechercher en permanence, bien entendu en fonction d'évolution des connaissances et des techniques, et des aspirations sociales qui s'expriment, soit à travers la presse, soit spontanément, soit à travers la réglementation, de réconcilier le développement économique et la protection des différents milieux, protection de l'environnement, mais aussi des hommes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Je vous remercie de votre attention.
Merci, c'était intéressant. Mais enfin, j'ai eu l'impression quand même que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, que c'est un peu utopiste, parce que historiquement, il y a eu Seveso, Bhopal, l'Erika dernièrement, et bon, il y a des trous dans la politique, parce que les gens qui étaient à la tête des industries à Bhopal, ils n'ont pas du tout pris soin ni de l'environnement, ni des hommes. Il y a des trous, et actuellement, je pense que hors des pays comme la France ou l'Europe, il y a des tas d'endroits où les politiques qui sont appliquées dans certains pays occidentaux ne le sont pas dans des pays en développement. Ensuite, les risques comme celui de l'Erika n'ont pas été pris en compte du tout jusqu'à la base. Alors, c'est, si vous voulez, que vous disiez qu'il y a une perception du risque, que les gens trouvent qu'il faut vivre sans risque. Moi, je crois qu'il faut quand même aussi dire que les risques augmentent collectivement et qu'ils augmentent avec la complexité des produits et des techniques mises en œuvre. Il ne faut quand même pas oublier ça.
Il y a de multiples questions dans votre intervention. Alors, je n'ai absolument pas revendiqué la performance. D'accord. J'ai essayé simplement d'apporter un éclairage sur ce que les industriels essaient de mettre en place, qu'il y ait des erreurs et qu'il y ait des défaillances, c'est certain. C'est possible. C'est vrai au plan individuel comme au plan collectif. Je pense aussi que par l'effet de la spontanéité des informations qui sont divulguées quasi instantanément, hein, il suffit d'avoir des chaînes câblées et puis vous avez l'information immédiate et instantanée, on oublie souvent des événements dramatiques du passé. Courrière, 1000 morts, mal passé, je ne sais pas si on se souvient de mal passé, dans le débat de l'énergie où on se dit... Est-ce que le nucléaire est sûr ou pas? On a oublié le coût payé à l'extraction du charbon, ou même le coût payé pour certains barrages hydrauliques. Je suis de ceux dont la belle famille a été frappée par Malpassé. Donc il faut jeter un regard, je dirais, critique, exigeant sur tous ces événements. Il faut les replacer dans leur contexte et dans leurs époques. Il est exact, et je crois l'avoir dit dans mon exposé, que malheureusement, le niveau de vie qui est le nôtre, dont je ne suis pas sûr qu'il perdurera, je suis de ceux qui craignent le risque infection. On l'a oublié parce qu'on pense que la médecine a fait des progrès décisifs. Il y a de nombreux articles qui paraissent. Et compte tenu de l'abus de certains médicaments, il se peut, et c'est peut-être le risque du 21e siècle, que ce risque infectieux revienne au niveau qu'on a connu antérieurement. Donc c'est vrai que tous les pays ne bénéficient pas de notre niveau de vie. Vous disiez l'Europe, ça va plus loin que ça, hein. C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est le Japon, enfin il y a quand même de nombreux pays qui se comparent aux nôtres. Bien entendu, Taïwan, Singapour, la Chine qui est en train de se développer. Il y a eu des accidents, ils sont malheureux, c'est vrai. C'est vrai que Seveso, c'est un accident d'ignorance, c'est-à-dire qu'il s'est produit un événement qui a apporté à la connaissance. Bhopal, si vous le voulez bien, j'en parlerai pas, parce que ça s'est passé dans un pays, je dirais simplement qu'il y avait des unités identiques aux États-Unis et que l'accident ne s'est pas produit. D'accord. Tchernobyl, oui, quelqu'un vient de suggérer Tchernobyl. Je ne suis pas spécialiste de l'industrie nucléaire. Je dirais qu'il s'est passé aussi dans un contexte technique et politique assez particulier. Les réacteurs en question étaient connus comme étant, à certains régimes, particulièrement instables. C'est-à-dire que là, la connaissance, contrairement à Seveso, la connaissance était au départ. Elle était dans la prise de décision, elle était à mon avis doublement dans la prise de décision. Elle était dans le type de réacteur et elle était dans l'expérience qui a été réalisée juste avant l'accident. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer dans cet exposé, c'est la démarche que suivait l'industriel pour essayer d'aller vers le niveau d'exigence qui semble être le vôtre de madame, mais j'ai clairement conscience que, eh bien, de temps en temps, il y a des erreurs et puis il y a des situations accidentelles.
Les ignorances de la politique pour Bhopal, par exemple, pour l'ERICA.
Alors, pour l'ERICA... Je n'en parlerai pas, j'appartiens au groupe Total Fina, mon président. Alors je n'en parlerai pas pour une façon simple. Je savais qu'on me poserait la question, forcément, en venant ici. Alors pourquoi n'en parlerai-je pas? D'abord parce que je suis dans la branche chimie de Total Fina et que je ne suis pas directement au contact de l'événement ni dans la technique correspondante. Mon président s'est exprimé devant plusieurs instances à ce sujet. Nous avons mis en place une commission dite du littoral qui, dans le cadre de l'autorité préfectorale du plan dit Polmar, gère un certain nombre d'éléments de récupération et de traitement des déchets, et que je crois qu'il y a eu suffisamment d'informations dans la presse venant de l'entreprise pour que tout le monde soit au courant. Je n'en ai pas plus que vous, c'est-à-dire je ne suis pas un acteur direct, et si je me mettais à vous parler de l'ERICA, je ne pourrais que répéter ce que vous connaissez déjà, et ça serait sombré dans la conversation de Café du Commerce, et je pense que cette réunion vaut mieux que ce que je pourrais vous dire de l'ERICA, puisque je ne suis pas un acteur direct du sujet. Ensuite, et pour terminer, vous savez qu'il y a un certain nombre d'actions judiciaires à cet égard, et que je ne crois pas opportun non plus de faire des commentaires à ce sujet.
Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, lorsqu'il y a une catastrophe, mais même pour de plus petits dommages, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt qu'il y ait un rapport officiel et international sur ce qui s'est passé et si on peut ou non l'éviter dans l'avenir? D'autre part, il faudrait évidemment des sanctions et les préciser, et d'autre part, des dédommagements et les préciser. Là, pour l'instant, on le voit bien avec elle, mais avec d'autres, que les dédommagements, ensuite, ce sont des procédures qui sont négociées. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'automatisme dans le dédommagement.
Oui, votre question est complexe. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des commissions internationales. Ça se fait souvent dans le domaine de l'aviation, d'ailleurs, par exemple. Donc, pourquoi pas? Il suffit que les États en décident. Ensuite, pour l'autre partie, votre question pose le problème de fond, d'une part de la judiciarisation, c'est-à-dire l'évolution de notre société vers un recours marqué de plus en plus à la justice. C'est en soi un thème de débat, on peut y revenir. Et deuxièmement, il y a le problème, c'est que d'une part, nous souhaitons vivre dans un état de droit, c'est-à-dire que nous sommes au milieu d'un ensemble de règles qui régissent le fonctionnement de notre pays ou de l'Union européenne ou des pays entre eux au plan international, et qu'on ne peut pas s'abstraire, même, hélas, dans le cas d'un accident, de ces règles-là. C'est-à-dire que toute démarche doit s'inscrire dans le cadre de la loi. On ne peut pas oublier la loi au motif de la catastrophe. Alors cette loi, eh bien, elle a sa pesanteur, elle a son rythme, elle veut que les experts s'expriment, elle veut qu'il y ait des évaluations, elle veut qu'il y ait des justifications des dommages, et ainsi de suite, tous ces processus étant extrêmement longs. Ensuite, vous avez soulevé le problème de la sanction. La sanction, ça veut dire que forcément, il y a un coupable. Ou alors, c'est la sanction économique, et la plupart du temps, elle est organisée. C'est-à-dire, c'est le système d'assurance, ou c'est le système de recours, mais au tribunal civil, en dédommagement. Alors, le problème que vous soulevez de la sanction, c'est un problème très moderne, qui a été largement débattu. Il y a de nombreux ouvrages là-dessus, il y a eu de nombreux exposés. Je ne sais même pas si, dans le cadre de l'UTLS, ça n'a pas été évoqué. Il y a une dérive en France et en Europe vers, effectivement, la recherche de la sanction pénale. C'est-à-dire que nous ne nous satisfaisons plus d'une compensation économique à un dommage qui est à évaluer, et qu'en plus du dédommagement, on veut forcément un coupable. Alors, c'est un problème de fond qui a été largement évoqué. Madame Raymond Gouillou, une grande spécialiste de ce sujet, parlait même d'un retour à un état pré-juridique. On n'est pas très loin de la loi du talion, simplement par une satisfaction de sacrifice, parce qu'un dommage ayant été causé, ben, il en faut un autre pour compenser. Donc c'est une évolution de la société contre laquelle je n'ai pas d'opinion à porter. C'est un constat que je fais. Encore faudrait-il que notre loi change. C'est-à-dire qu'il n'y a de sanction au pénal que pour autant que la loi ait prévu la faute. On ne sanctionne que ce qui est porté dans la loi. Et on le sanctionne suivant le barème de la loi. La démocratie directe est inefficace en ce domaine. Ça me paraît heureux parce qu'on se rapprocherait de la notion de lynchage et de punition qui serait instantanément décidée. Donc on est dans cette... excusez-moi, monsieur, je ne me dirige pas vers vous quand je dis ça. C'est une réflexion pour tout le monde. On est dans une contradiction où on revendique en même temps la protection de la loi. On est dans un pays de droit. Et on voudrait à un certain moment faire abstraction et que des sanctions s'organisent d'une manière différente. C'est un peu contradictoire. Mais c'est un problème de fond de notre société actuelle.
Oui, mais moi, je suis pas du tout zen hein, avec l'Erika. Moi, je suis arrivée, j'étais en Vendée au moment de l'arrivée des plaques. J'ai pris ma petite pelle et mon seau comme beaucoup de monde et je suis pas zen du tout parce que je suis bon d'accord pour entendre tout ce que vous nous avez dit. Mais malheureusement, ce qu'il y a sur le papier, c'est pas tellement appliqué. On voit qu'en fait, c'est la logique du profit qui gagne. Hein, et que là, on fait appel à des... Vous parlez de formation des acteurs. Bon, on a là des gens qui sont plus ou moins capables de répondre à la situation, plutôt moins que plus, en fait. Et puis, vous nous parlez aussi oui, toujours par rapport aux acteurs, on voit de plus en plus l'appel à la sous-traitance, y compris dans des industries très très sensibles comme le nucléaire. Vous parlez de l'accident, de l'incident sur Arroissy. Il s'agit de plus en plus de déréguler, d'en demander mille fois plus aux acteurs justement qui sont les contrôleurs aériens. Alors c'est bien votre discours, mais ça va pas avec la réalité. Et plus ça va, comme dit la dame, et plus on risque gros, hein, parce que si une centrale explose, là, je peux vous dire que nos progrès, on n'aura plus le temps de le voir. Hein.
Je ne peux que partager votre opinion. Je ne vais pas m'inscrire en faux. C'est simplement le constat que mon exposé est certainement passé à côté de l'objectif que je m'étais fixé, qui était de vous apporter quelques points d'information. Votre jugement est totalement respectable, madame. Je l'admets, c'est votre point de vue. Vous l'exprimez de façon un peu plus courte que ce que furent mes 50 minutes d'exposé, mais il est certainement pertinent.
Oui, j'avais une question à vous poser. Vous avez exposé parfaitement clairement les problèmes de sécurité en matière de risque industriel, mais vous avez ou fait un oubli, ou alors ce n'était pas dans le cahier des charges de la conférence, vous n'avez pas parlé des problèmes de sûreté, c'est-à-dire des problèmes de malveillance. La décision de vouloir faire périr ou de vouloir contrer une entreprise, c'est des choses qui sont importantes en matière de risque industriel. Je pense au piratage informatique, je pense au sabotage d'installations pétrolières ou autres, etc. Et je m'interroge beaucoup là-dessus. J'ai une deuxième remarque à faire. Vous avez parlé du facteur humain. On est tout à fait d'accord, c'est très important. C'est le facteur principal. Mais il faut aussi parler dans le risque perçu. Et moi, je le ressens un petit peu ici dans la salle quand j'entends les questions sur l'ERICA, par exemple, sur un dossier en fait, qu'on ne connaît absolument pas. Enfin, personne n'a de réponse aujourd'hui. C'est sur le sentiment de la part des populations occidentales, notamment, à vouloir forcément trouver un coupable, trouver une responsabilité quand il y a une déviance, si vous voulez, dans le problème du risque industriel. C'est-à-dire quand on a, pour une raison économique, on n'a pas fait le choix de la sécurité parce que le coût de la sécurité totale est absolument énorme et que ça aurait des répercussions sur notre société.
Oui, alors je vais commencer par la fin de votre intervention. La sécurité totale n'existe pas, c'est-à-dire que le coût est incommensurable, elle n'existe pas. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'en renonçant, on se mettra en sécurité dans certains domaines, puisque justement, la recherche de certaines nouveautés, c'est pour apporter une solution à un problème. Donc, ne pas résoudre le problème, ça serait rester dans le cadre du risque posé par ce problème. Donc la sécurité totale, c'est certainement un leurre. Alors c'est vrai que tout industriel, mais tout acteur, vous individuellement ou dans votre famille, vous faites un certain nombre de choix dans un cadre de contraintes déterminées, c'est-à-dire un certain nombre de ressources disponibles, et puis un certain niveau de connaissance à un moment donné. Et que ces choix peuvent se révéler non pertinents au fil du temps. Il n'y a pas pire difficulté que de jeter un regard sur l'arrière, cet anachronisme qui fausse tout. On se demande comment les anciens ont été assez bêtes pour faire ça. Ils n'étaient pas différents de nous, ils étaient à un niveau d'évolution de connaissances et des techniques qui ont fait qu'ils ont, à un moment donné, effectué un certain nombre de choix. Donc c'est vrai que l'entreprise fait un certain nombre de choix, mais nos sociétés aussi. Et c'est tout le débat de la recherche de sécurité totale ou de, je mets ça entre guillemets, ou de l'invocation, soit parce qu'on l'a mal compris, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, dans l'ignorance complète des éléments qui le fondent, soit pour la défense de thèses particulières. Le principe de précaution a comme danger s'il dérive, et il y a eu un très bon rapport de Mme Vinet, de M. Kourinski à M. le Premier ministre, le mettant en garde contre cette dérive possible, c'est qu'à vouloir répondre à tous les risques, et notamment des risques qui n'ont aucune substance, si ce n'est l'impression, l'opinion, eh bien ça se traduit par une très mauvaise allocation de ressources. C'est-à-dire qu'on met des fortunes, on dépense des sommes folles sur des risques qui sont inexistants, mais qui répondent à, ou pour réassurer, une certaine partie d'une opinion qui est déstabilisée, parce que des connaissances sont portées comme ça dans les médias, sans substrat. Donc il y a un problème fondamental de choix de société, et le choix fait qu'on ne résout pas tout. C'est le malheur de toute société, de tout individu. C'est peut-être sa noblesse, c'est d'avoir à faire un choix, des choix, dans ce qui est possible à un moment donné. On peut se tromper, et parfois on se trompe, c'est vrai. Vous avez évoqué ensuite le problème de la sûreté par rapport à la sécurité, alors ça devient très technique. La sûreté au sens protection contre des atteintes de l'extérieur, c'est vrai que c'est une préoccupation. Nous sommes quand même dans des pays qui sont encore pacifiés, c'est-à-dire que la sûreté se juge non pas uniquement par rapport à l'élément protégé, mais aussi par la menace qui s'exprime sur cet élément-là. Pour l'instant, en France et pour les installations industrielles, ça s'est trouvé en certaines circonstances, il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs je ne sais pas, mais vous l'avez peut-être oublié, nous sommes toujours sous le régime de Vigipirate. Vous voyez encore des personnes dotées de fusils dans certaines de nos gares, nos aéroports. Donc c'est la menace qui fait que la sûreté est plus ou moins élevée. Donc nous avons des protections normales pour interdire l'accès à des personnes qui ne sont pas reconnues comme devant rentrer dans nos entreprises, mais ce ne sont quand même pas des châteaux forts. Alors par contre, vous avez raison, que sur certains éléments fragiles comme les éléments informatiques, et l'actualité le montre maintenant chaque semaine, plutôt chaque vendredi soir, eh bien, il y a des attaques répétées qui coûtent des fortunes, hein, puisque ça se chiffre en millions de dollars chaque week-end pour toutes ces attaques informatiques. C'est un élément fragile de notre société, certainement. Donc cette sûreté, je ne l'ai pas évoquée parce que c'était certainement technique. Il n'y avait pas de cahier des charges à la conférence. J'avais une totale liberté. Je me suis peut-être trompé dans mon objectif. Il n'a peut-être pas satisfait à tous votre curiosité. Mais donc il n'y avait pas de cahier des charges. C'est l'un des avantages venant ici, c'est que le conférencier a une totale liberté.
Oui. Vous nous avez mis en garde contre l'absence de pas bien lister, de pas bien inventorier tous les risques au cours de l'évolution des différentes étapes d'un projet. Il est oui. certain que au stade de l'exploitation, a fortiori au stade de la maintenance, il est aisé de repérer les risques du dispositif qu'on a mis en service, mais le responsable de la conception de l'avant-projet, voire de l'esquisse, quand il s'agit d'un objet architectural, c'est encore plus difficile, c'est très difficile de deviner, de repérer les risques que vont causer ces dispositifs. Alors, a-t-on des outils informatiques ou non pour nous aider dans cette tâche?
Oui, vous abordez un thème sur lequel j'ai fait plusieurs conférences qui s'appelle le retour d'expérience. C'est cité dans ma modeste bibliographie. Les branches industrielles porteuses de risques se sont organisées depuis très très longtemps, en faisant fi d'ailleurs des aspects concurrentiels. C'est-à-dire que les industriels n'ont pas hésité à partager, même parfois au détriment donc de la divulgation d'un certain nombre d'éléments qui constituaient son patrimoine industriel. Ils ont très tôt échangé sur les problèmes de sécurité. Alors c'est vrai dans l'aviation, mais c'est vrai aussi par exemple dans l'industrie chimique. Avant la fin des années 60, je me trouvais déjà dans des groupes de travail nationaux ou européens pour échanger sur la sécurité d'un certain nombre de filières industrielles, que je ne citerai pas, ça n'a pas d'importance. Donc depuis 40 ans, on échange. Ça s'appelle le retour d'expérience. Et ce retour d'expérience est organisé d'abord au niveau de l'entreprise. Et donc il y a des procédures pour ça. Vous avez évoqué des procédures informatisées, mais il y en a d'autres. Et ça fait partie d'ailleurs du management et de l'aspect humain. C'est-à-dire que si on réussit à intégrer l'acteur, l'opérateur, dans tout ce qu'il détecte d'anormal et de faire en sorte qu'il s'interroge, qu'il le porte à la connaissance de ceux qui peuvent savoir et résoudre, eh bien on avance en connaissance. C'est-à-dire qu'on comble au fur et à mesure ce qui avait pu rester de non-prévu ou d'imprévu dans le projet. C'est ce qu'on appelle l'intransparence des systèmes complexes. Je ne vous ai pas parlé de cette notion parce que j'aurais débordé de 50 minutes. Donc ce retour d'expérience est organisé au sein de l'entreprise, il est organisé au sein des branches professionnelles, il est organisé nationalement mais aussi internationalement. Il y a certaines branches industrielles qui font des échanges au niveau mondial, tous les 2 ou 3 ans, les spécialistes se réunissent. Et donc ça nourrit les réflexions de tout le monde, ce qui fait que quand un événement s'est produit chez quelqu'un qui a les mêmes activités que vous, et si vous n'avez encore pas eu de signaux d'alerte sur ce qui pourrait arriver, ça vous amène à vous interroger et à revoir tout ou partie de votre procédé à la lumière de cette nouvelle information. Donc ça s'appelle le retour d'expérience. L'administration d'ailleurs aussi a organisé une partie de ce retour d'expérience. Ça fait l'objet d'un colloque qui a duré 2 ans, organisé par le CNRS et qui a donné lieu à de nombreuses publications, et pas uniquement sur le milieu industriel, il y a du retour d'expérience en tout domaine, en médecine.
Oui. Vous avez traité un sujet qui est difficile, et je crois qu'une partie des réactions de la salle montre le problème du risque. C'est qu'en fait, tout contrat est basé sur une notion de partage du risque, et que ce soit un contrat économique ou social, et que le risque est souvent illisible. D'ailleurs, beaucoup de mesures dont vous nous avez parlé tendent à rendre le risque apparent, mais peut-être pas suffisamment. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez conclu sur la notion de facteur humain en montrant que dans des cas de crise, eh bien, on faisait appel à des notions de compréhension, d'adhésion, de motivation, d'implication. D'une part, et puis d'un autre côté, il m'a semblé qu'il y avait un aspect qui n'avait pas du tout été traité de la dimension du risque industriel, qui est Renault à Villevorde, Moulinex en Normandie, ou bien SNEAP à Lac, où on a toujours les mêmes, où il y a une population qui va perdre son industrie. Et donc, là, peut-être une dimension de culture à laquelle il faut faire appel. Donc, une dimension une lisibilité beaucoup plus large sur le risque.
Exact. Je l'avais dit en introduction, j'ai certainement pas été assez clair en disant que j'essayais plutôt de montrer la logique et la méthodologie suivie par rapport à l'aspect technique. Il y a de nombreux risques. Il y a le risque juridique à l'intérieur de l'entreprise et pour les acteurs. Puisqu'il y a le risque lié au code du travail, il y a le risque lié à la législation sur les installations classées, il y a la loi plus générale, le code pénal et ainsi de suite. Il y a un risque financier, il y a un risque d'image qui se confond avec le risque financier. Il y a celui, effectivement, de l'évolution de la technique qui fait, ou de l'économie qui fait qu'un site peut se trouver, à un moment donné, déclassé par rapport à un certain nombre d'objectifs. Alors ça c'est la vision négative, hein, bien sûr. C'est possible dans toute aventure qu'elle se termine mal ou qu'elle ne corresponde pas. Il y a une autre vision sur laquelle je n'ai pas essayé de rentrer ou d'aborder. À certaines réflexions, j'ai compris que j'avais été excessif dans l'aspect positif. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur l'aspect humain. Il y a au sein des entreprises des citoyens comme nous. Ils sont nombreux. Tous les jours, ils ont des espoirs de voir leur activité prospérer, se développer. Et ce sont pas des gens qui sont prisonniers d'un travail. On a souvent une vision, je dirais, assez fermée sur le sujet, en disant forcément, comme ils ont un travail, ils sont prisonniers de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a une logique de dépendance qui dépend du travail et du salaire, mais l'an 2000 est tout à fait différente de l'année 1900. C'est-à-dire que les acteurs au travail ont d'immenses possibilités, et pas uniquement par les voies représentatives, de s'exprimer. On ne fait pas passer n'importe quoi au sein d'une grande entreprise moderne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a des acteurs qui espèrent beaucoup dans leur travail, pour la rémunération, mais aussi pour leur épanouissement, leur progression. Donc le système que vous évoquez, il est complexe, puisque c'est le social. Alors il y a l'aspect négatif que vous avez évoqué, il y a l'autre aspect positif que j'essayais simplement d'effleurer, parce qu'il nous amènerait excessivement loin. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, il y a tout ça. Et tout événement qui peut porter atteinte à un intérêt particulier ou collectif, eh bien, ça s'appelle un risque. Donc les dimensions du risque sont, je ne dis pas infinies, mais sont multiples. J'ai pris un axe d'exposé en considérant que je n'avais que 50 minutes. C'est certainement insuffisant, mais c'était simplement pour apporter une information sur ce que normalement on n'a pas l'habitude d'entendre.
Oui, bonsoir monsieur, je suis ici. Non, un peu plus bas, merci.
Voilà. Excusez-moi, bon, parce que j'ai de multiples lumières.
Bon, moi, ma question va être très pratique. Alors, mais si le fautif, hein, le gars, celui que vous avez appelé l'acteur, l'agent, quel qu'il soit,
oui.
Si l'acteur, si le fautif est payé par une organisation, par l'État, je ne sais pas, ça peut être Total Finance, n'importe qui, enfin, une organisation de l'État ou n'importe quoi. Et si la personne qui est chargée de contrôler ou de dénoncer le fait de risque, l'apparition du risque, bon, qui est-ce qu'on peut aller consulter? C'est-à-dire, quel est le niveau de la participation du citoyen?
Alors, vous parlez après un accident?
Oui, oui.
Ou à marge normale?
Tout le temps.
Tout le temps.
Surtout après l'accident.
Tout le temps.
Il faut le dénoncer, l'accident.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais répondre pour le tout le temps. J'ai essayé de vous indiquer, il y a différentes voies, je ne vous ai pas tout cité, mais enfin, vous m'obligez à rentrer dans des détails. Nous avons de nombreuses usines où il vous suffit, et nous avons des numéros de téléphone disponibles pour ça, de vous faire connaître et de dire que vous souhaitez visiter l'usine et avoir des explications sur son fonctionnement. Ce sont des portes ouvertes permanentes. Et certaines usines, tous les samedis, reçoivent un certain nombre de visiteurs, 10, 12, 15. Et donc, on peut aller visiter nos usines. Alors après, il y a des manifestations un peu mieux organisées. Ce sont les grosses manifestations type porte ouverte où on reçoit alors plusieurs centaines de personnes en même temps. Mais on a beaucoup d'endroits où nous recevons régulièrement des gens qui, du seul fait de leur demande, alors c'est encadré parce qu'on ne peut pas faire des visites individuelles, eh bien, il y a un certain nombre de techniciens ensuite qui sont à votre disposition pour vous expliquer comment ça fonctionne, Et puis vous montrez les installations, les salles de contrôle, et puis les acteurs au travail. Ça, c'est la marche normale. Le post-accidentel, il est beaucoup plus difficile parce qu'on retombe dans la question que monsieur posait tout à l'heure, c'est-à-dire que le juge apparaît tout de suite. C'est d'abord la gendarmerie et ensuite c'est le juge. Et à partir de là, on rentre dans le système lourd, mais qui à certains égards, j'y insiste, nous protège, qui est le système judiciaire et qui se réfère à un certain nombre de lois ou de règlements. Et à partir de là, bien la spontanéité disparaît, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est parfaitement organisé. Alors, il revient au pouvoir public, il revient au jugement, d'exprimer, ensuite de rechercher les responsabilités si elles existent, et ensuite, bien sûr, d'apporter un certain nombre de réponses. Mais là, c'est le grand dispositif social et judiciaire qui se met en place, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, et ce n'est plus possible, de spontanéité dans l'expression, puisque la loi s'impose. Alors, pour en terminer là-dessus, le nouveau code pénal a prévu, en certaines circonstances, de sanctionner non seulement l'acteur de base qui aurait pu commettre une faute qui mériterait sanction, mais en certaines circonstances, il y a une sanction pour ce qu'on appelle la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, qui est sanctionnée assez sévèrement, soit sous forme d'amende, soit sous forme d'autres possibilités que le juge a à sa disposition. Le nouveau code pénal a prévu cette possibilité.
Merci.